Mes chers collègues, merci de prendre place. Alors, en fait, on met le ministre là. Voilà. Merci de prendre place, de vous installer dans notre salle de réunion et devant vos écrans pour ceux qui sont en visioconférence. Bienvenue, monsieur le ministre, cher Olivier Dussopt. Bienvenue devant notre commission spéciale pour l'examen du projet de loi sur le respect des principes de la République. Nous avons souhaité auditionner un certain nombre de ministres en charge d'une politique qui, à première vue, pourrait paraître pas directement en lien avec notre texte, mais qui, pour autant, quand on regarde le texte, a des implications directes avec votre administration du budget, monsieur le ministre, et notamment plusieurs articles du texte font référence à des contrôles qui seraient exercés par l'administration, qui sont déjà d'ailleurs exercés le cas échéant, mais qui seraient renforcés par votre administration, car il y a différents aspects financiers dans le financement des cultes, notamment des associations culturelles, les financements étrangers qui sont à prendre en compte. Et donc, nous avons souhaité pouvoir vous interroger sur ces aspects. Et c'est pourquoi nous avons un mode d'audition un peu particulier, peut-être, par rapport à ceux auxquels vous pouvez être habitué ou vous avez pu être habitué dans votre déjà long parcours de parlementaire. Nous faisons une séance de questions-réponses. Et donc, nous n'aurons qu'une série de questions de 3 minutes maximum et de réponses de votre part de 3 minutes également. Et je passe tout de suite la parole pour commencer au rapporteur général du texte, Florent Boudié.
Merci, Monsieur le Président. Très, très rapidement, parce que le format impose la brièveté, Monsieur le Ministre. Première question. Le dispositif proposé par le gouvernement consiste notamment à faire en sorte qu'il y ait une déclaration préalable du caractère cultuel des associations de type 1905, et notamment pour répondre à une difficulté très particulière qui veut qu'aujourd'hui, pour qu'une association bénéficie en particulier des avantages fiscaux liés au statut culturel, elle établisse un rescrit fiscal. Est-ce que ce dispositif est pour vous une de façon à de nature pardon, à sécuriser l'association culturelle dans ses droits, mais aussi l'administration fiscale en particulier dans son appréciation du statut de chacune des associations culturelles? Deuxième question, plusieurs cultes souhaiteraient que les exonérations fiscales associées au statut d'association culturelle soient poussées de 66% à 75%. J'ai vu que ce sujet était parfois évoqué, Monsieur le Ministre. Quelle est votre appréciation sur cette proposition? Puis enfin, une dernière question qui concerne le contrôle des financements étrangers, mais une partie que Sacha Houlié, en tant que rapporteur sur cette partie, n'abordera probablement pas. Est-ce que vous pensez utile d'étendre le contrôle des relations entre cultes et États étrangers à l'interdiction de cession à des États étrangers, à des personnes morales étrangères ou physiques étrangères, la vente de lieux de culte? Voilà, Monsieur le Ministre, les 3 questions.
Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, sur le premier point et la déclaration préalable du caractère culturel, l'objectif est de mieux encadrer les associations qu'on qualifie parfois de mixtes entre 1900 et 1905. C'est une procédure qui nous paraît de nature à sécuriser le statut de l'association, à apprécier son statut, mais il ne s'agit pas véritablement d'une vérification a priori, d'un contrôle a priori. On est sur du droit déclaratif, mais ça nous permet ensuite, lors de contrôles a posteriori, d'être dans une situation plus claire en matière d'application du droit. Sur la question des réductions d'impôts liées aux dons aux associations, avec un taux de droit commun qui est à 66% et quelques exceptions sur un taux renforcé, la position du ministère des Comptes publics n'est pas une position liée au caractère culturel ou non culturel, sportif ou non sportif, culturel ou non culturel, mais c'est une position sur les dépenses fiscales. Et à de rares exceptions près, je pense à l'amendement qu'on qualifie d'amendement Coluche, ou en tout cas de déduction Coluche, qui par ailleurs a été revu non pas dans son taux, mais dans son plafond d'application à l'occasion de la dernière loi de finances. nous sommes défavorables à la création de nouvelles dépenses fiscales de manière assez constante, quel que soit le sujet ou l'appréciation. Enfin, sur la question des cessions de bâtiments qui appartiendraient à une association, et en particulier à des associations culturelles, au profit de personnes morales ou de personnes privées étrangères, c'est un point que nous n'avons pas regardé à ce stade. Donc il faut qu'on puisse l'expertiser pour voir si il y a un enjeu particulier. Je sais que l'actualité a montré qu'il pouvait y avoir des oppositions d'élus locaux à des opérations de cession de ce type-là. Mais à ce stade du débat, nous ne l'avons pas expertisé. Donc nous le ferons d'ici la séance.
Merci, merci Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Éric Poulia, rapporteur sur le chapitre 2 de ce titre 1 et qui porte sur les associations. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.
Super. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je disais merci pour le micro. Oui, donc la question relative donc aux associations. Tout d'abord, en préambule, je voulais vous faire remonter, si j'ose dire, les préoccupations des associations sur les articles 10, 11, 12 principalement, qui ont notamment, comme l'a rappelé la HCVA dans son avis qu'il a rendu sur le projet de loi, qui leur apparaissent quand même... ils ne comprennent pas bien la relation qu'il peut y avoir entre ces dispositions et la lutte contre le séparatisme. Donc déjà, j'ai envie de vous poser comme question celle-là. C'est selon vous, dans quelle mesure le renforcement de ces contrôles, notamment sur les fonds de dotation, notamment sur ce qui fait appel à la générosité, du public, en quoi ça conforte le respect des principes républicains? Et moi, j'ai des réponses, mais c'est les vôtres qui qui m'intéressent. De même, je voudrais savoir si vous pouviez préciser si les mesures envisagées s'appliquent exactement de la même façon, alors qu'elles soient sur la question des agréments, sur les fonds de dotation ou sur le mécénat, que ça s'applique de la même façon sur les associations relevant de la loi 1901, de 1905 ou les associations dites mixtes relevant de la loi 1907. Et enfin, dans les auditions que j'ai pu mener jusqu'à maintenant, j'ai pu noter que sur l'article 11, sur la nouvelle obligation déclarative imposée, il semblerait que la sanction soit pas clairement identifiée ou pas bien identifiée. Est-ce que vous pouviez nous la repréciser à nouveau? Merci.
Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre.
Merci, monsieur le président. Quelques mots d'abord pour dire que sur les articles 10, 11 et 12, il y a nécessairement une volonté d'une application avec prudence. L'objectif n'étant pas de faire une application au bulldozer de ce type de disposition. La réalité est la suivante, en trois points, la réalité actuelle. D'abord, l'immense majorité des associations ont une activité qui est tout à fait conforme à leur statut et conforme aux principes de la République, mais il n'empêche que certaines associations peuvent être utilisées comme des outils de financement, soit d'entreprises terroristes, soit d'entreprises d'apologie du terrorisme ou de lutte contre les principes de la République. Au-delà de ce lien avec la lutte contre le séparatisme, nous considérons que l'application de ces dispositions sera très certainement plus large, mais que lorsqu'une association est utilisée pour mener des opérations de blanchiment ou des opérations de recel, même s'il n'y a pas de lien avec une entreprise séparatiste, d'une certaine manière, c'est une violation des principes de la République, puisqu'il y a utilisation d'un avantage fiscal procuré par le don à ces associations pour financer des activités qui, lorsqu'elles ne sont pas séparatistes, peuvent être aussi illicites, et en cela, c'est parfaitement contraire aux principes républicains. L'application des dispositions que nous proposons sera exactement la même, avec les mêmes modalités, la même façon, pour les associations 1901 à 1905 ou celles dites de la loi 1907 pour parler des associations mixtes. Aujourd'hui, sur la question des reçus fiscaux et des dons, en réalité, les associations décident elles-mêmes si elles relèvent des dispositions législatives qui ouvrent le droit à la déduction fiscale. Et le seul moment où nous connaissons la réalité de leur activité par rapport à ces déductions, c'est lorsque les associations demandent un rescrit. Il y a 6700 demandes de rescrit par an. C'est à la fois beaucoup en nombre, mais très peu par rapport au nombre d'associations. C'est beaucoup en nombre de rescrits, mais très peu par rapport au nombre d'associations. Et donc le contrôle ne peut être qu'a posteriori. Sauf que le contrôle a posteriori est encadré aujourd'hui, puisque la loi ne nous permet que de contrôler si le nombre de reçus fiscaux délivrés et leur addition correspond au montant des dons déclarés, sans jamais nous intéresser au respect des statuts et au champ de l'association, et sans jamais vérifier qu'il y a un lien entre cette question des reçus et les trois critères qui fondent la déduction, c'est-à-dire le désintéressement, le cercle élargi et la non-lucrativité. Ce que nous souhaitons, c'est que les associations soient tenues de déclarer le nombre de reçus qu'elles ont délivrés et le montant total en le faisant apparaître dans leur compte. Je précise que lors de cette déclaration, nous ne demandons pas aux associations de déclarer le nom des donateurs d'associations. C'est important, y compris pour la discrétion des donateurs qui n'ont pas envie que leur nom soit exposé, et c'est légitime. Et cela nous permet aussi de vérifier que l'activité de l'association relève à la fois des trois principes qui fondent le droit à la déductibilité, mais aussi du champ de l'association. Je le répète, c'est quelque chose d'extrêmement rare, mais qui nous permettra de mener des contrôles là où c'est nécessaire. Et nous prévoyons la possibilité de suspendre les avantages fiscaux en cas de condamnation à un certain nombre de délits. Aujourd'hui, la justice peut suspendre et l'administration peut suspendre les avantages fiscaux lorsque l'association, comme personne morale, est condamnée pour abus de confiance ou escroquerie. Et nous proposons d'ajouter les condamnations pour terrorisme, pour recel, pour blanchiment, ainsi que les condamnations pour les deux délits que créerait la loi sur la mise en danger de la vie d'autrui ou la menace et les pressions sur les agents publics. Dernier point, pardon, Monsieur le Président, sur la question de la sanction. Elle est aujourd'hui définie à un montant bas. C'est une des discussions que nous pouvons avoir. Tout l'enjeu, très bas, tout l'enjeu est de trouver un montant qui soit proportionné, y compris à la vie de l'association. On peut imaginer une association tout à fait honnête, enfin, tout à fait désintéressée, qui oublierait une déclaration et qui pourrait se trouver confrontée à une amende extrêmement forte et extrêmement pénalisante. Donc il faut qu'on trouve l'équilibre pour que ce soit dissuasif mais proportionné.
Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Sacha Houlier, rapporteur pour le chapitre 2 du titre 2, du titre 3 et du titre 4.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je vais d'abord vous poser une question qui ne concerne pas ma partie, mais celle de Florent Boudier sur le financement des immeubles de rapport. On a eu plusieurs observations de la part de soit des associations philosophiques, soit même des associations cultuelles qui nous disaient que ne pas voir forcément l'intérêt de cette mesure. Moi, j'y vois un intérêt certain. Pensez-vous qu'il faille, pour ne pas que les associations cultuelles se transforment en promoteurs, plafonner l'avantage de ce bénéfice des immeubles de rapport? Pensez-vous qu'il faille également le compléter pour le dispositif qui concerne les baux emphytéotiques administratifs et leur cession ou leur prolongement? Une deuxième question concerne l'article 35 du projet de loi. Article 35 instaure la procédure du droit d'opposition de l'administration pour des financements étrangers et qui limite le champ d'application de cette disposition de droit d'opposition aux seules associations de loi de 1905. Or, et vous en avez un peu parlé lorsque vous avez évoqué les dispositifs fiscaux des articles 10 à 12, c'est le séparatisme, il peut être encouragé par des associations culturelles ou sportives, ou en tout cas tout un environnement d'associations qui sont soit mixtes, sous le fondement de la loi de 1907, soit plus généralement de loi de 1901. Et j'aurais souhaité savoir si vous envisagez ou si vous trouveriez judicieux d'élargir cette obligation ou ce droit d'opposition à toutes les associations. Le cas échéant, en l'état du texte ou au terme d'une modification qui viserait à inclure toutes les associations dans ce champ d'application, quels moyens seront de Tracfin seront consacrés à ce contrôle nouveau de l'État, parce qu'on sait que lorsqu'on crée une procédure, il faut aussi qu'il y ait les moyens qui soient affectés. Et je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui avait été prévu d'ores et déjà pour mener les dix contrôles.
Merci, Monsieur le rapporteur. La parole à Monsieur le ministre pour la réponse.
Merci. Sur la question des cessions d'immeubles de rapport, le choix qui est fait est celui d'une imposition classique du revenu sur la base des modalités d'imposition des associations lorsqu'elles ont des revenus immobiliers, avec un système d'imposition qui a par certains aspects un caractère pouvant être forfaitaire en termes de taux, qui s'applique aux personnes morales constituées sous forme d'association, quelle que soit la loi de rattachement, en tout cas si c'était adopté. Et c'est le choix que nous avons fait plutôt que celui d'un plafonnement. Mais en tout cas, il y a assujettissement à ce type d'imposition. Sur les bons emphytéotiques, nous n'avons pas intégré le sujet dans le texte, mais je suis tout prêt à le regarder, parce qu'effectivement, ça peut être utile, y compris en termes de parallélisme des formes avec les sessions classiques, de pouvoir intégrer les bons emphytéotiques dans ce texte d'ici l'examen en séance. Sur le choix que nous faisons de faire porter le financement la déclaration des financements étrangers sur les associations culturelles, tout particulièrement, c'est un double choix, une double motivation. D'abord, le constat que dans l'immense majorité des cas, quand il y a financement étranger que nous avons identifié par ailleurs, y compris par le travail de Tracfin, c'est en direction, lorsqu'il y a une visée séparatiste, c'est en direction d'associations culturelles pour les financements étrangers. Ça n'enlève rien à ce que je disais sur la nécessité de pouvoir veiller à l'utilisation des ressources, qu'elles soient venues d'étrangers ou pas, d'autres types d'associations. Le deuxième motif est la volonté de ne pas emboliser le système. Vous l'avez vous-même suggéré dans votre question. Il faut prévoir des moyens pour mener à bien ce contrôle. Ce sont les moyens de Tracfin. Ils sont en renforcement constant depuis plusieurs années. Vous avez adopté un PLF avec une augmentation de 5 ETP pour Tracfin. Il y a aussi un gros investissement dans l'intelligence artificielle et dans le traitement des données pour permettre à Tracfin d'être efficace dans la mesure où le nombre d'assujettis de Tracfin augmentant sans cesse, le nombre de déclarations de soupçons et donc d'informations remontant à Tracfin augmente aussi de manière extrêmement importante chaque année. Le traitement de ces informations dépend quasiment autant de présence humaine que de technologies permettant de recouper et de trier ces informations. C'est le même mobile qui nous a amené à prévoir une obligation de déclaration des dons supérieurs à 10 000 euros, y compris en faisant le constat que lorsqu'il y avait des financements étrangers pour des projets religieux, puisque des projets culturels, le don unitaire le plus bas que nous avons repéré sur les 12 derniers mois, pardon, s'élevait à 75 000 euros et la moyenne était même à 700 000 euros parce qu'on était principalement dans des financements de construction de bâtiments. Et donc c'est la raison pour laquelle, par souci d'efficacité, nous avons proposé ce seuil de déclenchement de l'obligation de déclaration à 10 000 euros.
Merci, Monsieur le Ministre. Nous en venons à des questions d'orateurs de groupe et nous commençons avec Charles de Courson pour le groupe Liberté et Territoire.
Monsieur le Ministre, j'ai deux petites questions à vous poser sur l'article 10 et l'article 11 et subsidiairement sur le problème de la possibilité pour les associations d'avoir des immeubles de rapport. Alors, sur l'article 10... Que signifie, au troisième ou quatrième alinéa, la notion de régularité ? On nous dit l'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues au présent livre, la régularité de la délivrance des reçus. Que signifie régularité ? Est-ce que l'inspecteur des impôts doit vérifier que le montant figurant sur le reçu correspond bien au montant effectivement versé à l'association ? Ce qui me paraît tout à fait normal. Ou est-ce que ça signifie qu'il doit aussi contrôler que l'association utilise ses fonds dans le respect des principes républicains. Auquel cas, on transforme la fonction d'inspecteur des impôts dans un contrôle du respect de l'objet social de l'association. Première question. Deuxième question, à l'article 11... Quel est l'intérêt pour l'administration fiscale que ces associations leur adressent le montant global, dit le texte. Ils disent, sont tenus de déclarer chaque année à l'administration fiscale dans les délais, etc., le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents. Si on veut que ça soit efficace, soit on dit, par un moyen informatique, le listing des donateurs, avec leur référence, qui permet à l'administration fiscale de vérifier que c'est bien le montant qui a été déclaré dans les déclarations d'hier ou d'IS, ou d'IFI, ce qui a les trois cas de figure. Troisième question concernant le fameux débat sur les immeubles de rapport. Le texte parle uniquement d'immeubles. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas dire immeubles ou droits immobiliers ? Dont notamment les baux emphytéotiques sont l'une des formes de ces droits immobiliers.
Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Sur la question des droits immobiliers, cela rejoint la question de Sacha Houllier, et donc c'est vraiment un point que l'on peut regarder d'ici la séance. Ça me paraît même intéressant de pouvoir creuser ce point pour pouvoir intégrer toutes les formes de cession ou de mise à disposition avec un rapport étant possible. Sur la question de la régularité, c'est un examen au fond, à la fois pour vérifier que le montant des dons inscrits sur le reçu correspond au montant des dons versés, pour vérifier aussi que l'association, dans le cadre de cette remise de reçu ouvrant droit à une déduction fiscale, respecte bien les trois critères de désintéressement, de non-lucrativité et de profit à un cercle élargi, et non pas à un cercle restreint. Je précise qu'il s'agit d'une vérification qu'on qualifie d'allégée. Évidemment, si, à l'occasion de cette vérification, des irrégularités sont constatées dans la comptabilité de telle ou telle association, cela peut ensuite ouvrir une procédure de contrôle plus approfondie qui s'apparente véritablement à un contrôle fiscal. Sur l'article 11 que vous avez rappelé, sur le fait que l'association devra donner à l'administration fiscale le montant total des dons perçus et le nombre de reçus qui correspondent à ce montant total. Il faut avoir en tête que nous avons voulu, comme je disais tout à l'heure, préserver l'anonymat des donateurs autant que nécessaire, d'où le fait que nous ne demandons pas la transmission d'un listing des donateurs. Et il faut aussi avoir en tête que l'administration aujourd'hui ne connaît pas le montant total des dons perçus par une association, puisque l'ouverture du droit à la déductibilité est faite par chaque contribuable par la demande de la déduction d'impôt lors de sa déclaration de revenus, charge à lui de conserver le reçu en cas de contrôle sur la réalité de cette déduction, mais l'association ne fait pas cette démarche-là. Et donc ça nous permettra d'avoir des informations utiles, notamment sur le niveau de financement de telle ou telle association par des dons plutôt que par des subventions ou des systèmes de cotisation ou d'adhésion. Et ce sont des éléments qu'aujourd'hui, nous n'avons pas. Et ça peut être considéré comme une forme d'indice d'enjeu fiscal. Et enfin, sur cette déclaration du montant global, il y a aussi un intérêt indirect. C'est-à-dire que lorsqu'une association se soustraira à cette obligation de déclaration, cela vaut aussi indice de soupçon et nécessité ou possibilité d'un contrôle, ce qui en soi nous permettrait de pouvoir diligenter un contrôle sur telle ou telle structure.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous enchaînons avec Alexis Corbière, orateur pour le groupe de la France Insoumise. Ah, voilà, monsieur Corbière, il vaut mieux raccrocher le téléphone, ça ce sont les joies de la visioconférence. Et allez-y.
Oui, pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, bonne année. Donc, dans ce jeu très rapide, pouvez-vous nous indiquer, si j'ai bien compris… Pardon, vous m'entendez ?
Très bien, très bien. Poursuivez, Monsieur le Ministre, Monsieur le Député.
Je vous en prie, Monsieur le Président. J'ai cru comprendre qu'on estime à peu près à 2,5 milliards le montant de tout ce qui est exonération fiscale pour l'ensemble du mouvement associatif. Êtes-vous en capacité de nous dire sur ces 2,5 milliards combien sont en provenance d'associations cultuelles ? Vous aurez compris le sens de ma question. Combien ça coûte d'ores et déjà ces déductions à des associations cultuelles, sachant que on pourrait, dans une bonne compréhension de la loi de 1905, considérer qu'il y a un financement public du culte. Dans ces 2,5 milliards, pouvez-vous dire en gros, même si vous n'avez pas le détail, j'ai cru comprendre que dans la mesure où il n'y a pas d'éléments demandés, c'est peut-être difficile à établir, mais quand même, je pense que vos services peuvent au moins nous transmettre une idée de proportion. Deuxièmement, quels sont les moyens de contrôle que vous aurez, qu'aurait l'administration sur la, mais ça a déjà été demandé, mais pour établir le caractère cultuel d'une association, si son activité est vraiment cultuelle, d'ores et déjà, pour dire les choses pardon, plus précisément, il y a une charte datant de 2014 qui est demandée aussi à l'ensemble du mouvement associatif. Avez-vous des éléments qui ont amené à ce que, en raison du non-respect de cette charte, certaines associations ont été sanctionnés, si je puis dire, et ont perdu leur subvention. Avez-vous des éléments là-dessus pour voir s'il y a là quelque chose, un phénomène qui mériterait de durcir les dispositifs actuels ou si finalement aucun élément probant et significatif nous amène à considérer qu'il faudrait passer de cette charte à désormais même un contrat d'engagement. À force de loi, nous a dit Madame Schiappa, ce qui est un peu étonnant. Enfin, concernant les baux emphytéotiques, ne croyez-vous pas qu'il a là aussi parfois une pratique qui peut être comparée à une forme de financement public du culte quand le montant des baux emphytéotiques est quasi symbolique, 1 euro par exemple. N'y aurait-il pas aussi besoin d'exiger quand même que ces baux emphytéotiques, qui parfois permettent que des associations culturelles peu fortunées, mais qui rassemblent des fonds, qui mettent du temps à rassembler, peuvent bénéficier d'un terrain, etc., etc., mais quand même des pratiques parfois qui sont discutables, discrétionnaires. Voilà donc mes questions, en espérant que vous les aurez compris. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur le Ministre pour vous répondre.
Merci, Monsieur le Président. Et comme l'a rappelé Monsieur le député Corbière, qui me souhaitait bonne année, je lui souhaite bonne année aussi, ainsi qu'à tous ceux qui sont dans l'audition. J'aurais dû commencer par là. Sur la question des baux emphytéotiques, je crois que la jurisprudence est assez fournie sur le sujet, notamment sur le fait qu'un certain nombre de tribunaux ont considéré que des baux emphytéotiques par trop avantageux étaient assimilables à un financement d'associations culturelles et ont pu remettre en cause notamment des mises à disposition de terrain en vue de la construction de tel ou tel bâtiment cultuel. Et je crois que cette jurisprudence suffit en termes d'encadrement, même si, comme je l'ai indiqué tout à l'heure en réponse à Sacha Houlier notamment, c'est un sujet qu'on peut regarder pour voir s'il y a des améliorations à apporter d'ici la séance. Sur le caractère cultuel des associations, c'est l'autorité préfectorale et donc le ministère de l'Intérieur qui établit la reconnaissance du caractère culturel de l'association, raison pour laquelle, en termes de périmètre ministériel, vous comprendrez que je ne me prononce pas, d'autant plus que je connais mal cette procédure, dans la mesure où je n'ai pas eu l'occasion récemment de la regarder pour la préparation du texte. Je suis resté concentré sur les questions fiscales. Et enfin, j'en viens à la question que vous avez posée sur la part des dons faits à des associations culturelles dans les déductions d'impôts et donc la dépense fiscale qui est établie. C'est justement ce que nous voulons savoir. Le fait que les associations, aujourd'hui, n'aient pas à déclarer le montant total des dons qu'elles ont enregistrés et qui font l'objet de la remise d'un reçu entraînant la déduction, nous interdit de savoir à qui a profité les dons qui sont objets de déduction. Pour le savoir, il faudrait que nous ayons connaissance, pour chaque contribuable demandant une déductibilité, de la nature et de l'identité de la structure à laquelle il a fait un don, sachant qu'aujourd'hui, vous déclarez un don, mais dans votre déclaration de revenus, vous n'êtes plus tenu de mettre le reçu, vous devez le garder en cas de contrôle. Ce que je peux vous indiquer, c'est que la dépense fiscale en 2019 pour les dons versés aux associations s'est effectivement élevée à 2,4 milliards d'euros, que sur ces 2,4 milliards d'euros, environ 950 millions d'euros ont bénéficié à des entreprises et 1,450 millions d'euros à des particuliers. Et j'imagine, mais c'est une intuition, en tout cas un sentiment personnel, que l'essentiel des dons des associations culturelles relève plutôt des dons qui ont fait l'objet d'une opération de déduction par les particuliers. Mais une fois que la loi que nous vous présentons sera adoptée, si le Parlement en décide ainsi, nous aurons cette possibilité, par la connaissance des dons encaissés et donnant lieu à un reçu, déclaré par les associations, de savoir quelle est la part qui va à des associations culturelles. Aujourd'hui, nous sommes véritablement incapables de pouvoir le savoir précisément.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous passons maintenant au groupe de la gauche démocrate et républicaine. S'il y a un oratrice ou non. Donc, ce sera Madame Fabienne Colboc pour le groupe de La République En Marche.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai trois questions à vous poser concernant le contrôle des organismes à but non lucratif prévu à l'article 10. La durée du contrôle limitée à 6 mois est-elle spécifique à cette procédure de contrôle ou est-ce le droit commun ? Question aux articles, à l'article 46. Deux questions concernant l'article 46, l'obligation de confidentialité qui s'impose aux professionnels assujettis lorsque le TRACFIN exerce un droit d'opposition, ne les prive-t-elle pas d'un moyen de défense si leur responsabilité était engagée par un client ? Et l'article 46, toujours, la disposition proposée, dont la rédaction est très large, élargit considérablement la prérogative du TRACFIN. N'est-ce pas lui donner trop de pouvoir ? Je vous remercie.
Merci, ma chère collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre.
Merci, monsieur le président. Sur le délai de 6 mois, sur la durée de six mois, c'est une durée spécifique que nous proposons par ce texte-là, considérant que le public qui est concerné, notamment le fait que ce soit des personnes morales, devait nous amener à prendre des dispositions sur le délai et à les adapter au fonctionnement qu'on imagine le plus commun de ce type de structure. Donc ce n'est pas du droit commun par application d'un délai qui s'appliquerait par ailleurs, mais une estimation du bon délai qui a été fait par nos services. Sur l'article 46, qui a fait l'objet de vos deux autres questions, deux points. D'abord, préciser que c'est effectivement une disposition qui élargit la capacité d'intervention de TRACFIN. Pourquoi est-ce que nous proposons cette disposition ? Aujourd'hui, lorsque un assujetti, c'est-à-dire dans le cas le plus courant, une banque, signale et fait une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN concernant une opération qui lui paraît litigieuse, TRACFIN peut mettre en place un droit d'opposition sur l'opération. Mais si l'association, puisqu'on parle d'association, en tout cas le titulaire du compte, multiplie le nombre d'opérations litigieuses, de demandes d'opérations litigieuses, il faut que l'assujetti, la banque, fasse autant de déclarations de soupçon que d'opérations litigieuses et que TRACFIN fasse autant de déclarations d'opposition que de déclarations litigieuses. Nous sommes face à des personnes morales qui, lorsqu'on est au stade du droit d'opposition, qui est utilisé de manière très parcimonieuse par TRACFIN, c'est parce que nous l'utilisons avec un objectif généralement, en coordination avec la justice, entre TRACFIN et la justice, c'est la saisie ou le gel ou la saisie des avoirs. Et donc, ce que nous proposons, c'est que pendant 10 jours, pour les opérations relevant de la nature du soupçon, ça pourrait être financement du terrorisme, évasion fiscale, mais en tout cas, c'est circonscrit, TRACFIN puisse faire un droit d'opposition global et que l'opération, soupçon par soupçon et blocage par opposition par opposition, ne soit pas nécessaire, de manière à ce que nous puissions contenir et maîtriser ce patrimoine jusqu'à un éventuel gel ou une éventuelle saisie. C'est vraiment la raison pour laquelle nous proposons cette disposition. Et je précise qu'évidemment, si une association ou une structure, parce que ça porte sur les associations, mais c'est valable pour toutes les structures, dispose de fonds importants et que des transferts vers l'étranger sont bloqués dans le cadre de ce droit d'opposition pendant 10 jours, si la même association a des salariés et qu'elle souhaite payer l'URSSAF, par exemple, il n'y a pas d'opposition sur ce type d'opération. Ce sont vraiment les opérations